I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 23 septembre 2023, dans le Bas-Rhin, une adolescente de 15 ans, habitante de la commune de Plaine, a disparu mystérieusement. Elle marchait le long d'une route, elle comptait prendre un train pour Strasbourg, elle n'est jamais arrivée à la gare. La justice travaille sur la piste d'un enlèvement et à ce jour, le ou les auteurs de cet enlèvement n'ont pas été retrouvés. Nous avions déjà consacré un épisode de Code Source à cette disparition le 31 octobre. Nous avons souhaité y revenir pour faire un nouveau point sur l'enquête. Il y a eu de nouveaux éléments, mais nous allons redonner l'ensemble des informations importantes pour comprendre l'affaire. Ce podcast est raconté par Louise Colcombé du service Police-Justice du Parisien. Louise Colcombé, le vendredi 22 mars à Strasbourg, la mère de Lina, 15 ans, disparue en septembre, lance un appel à témoins. D'un mot d'abord, comment décrire cette femme ?
Fanny Groll est une femme forte, c'est toujours l'adjectif qui me vient en premier. C'est-à-dire qu'elle est toujours très calme, très posée dans son expression. Physiquement, c'est une femme fine, cheveux blonds, très déterminée en fait à pouvoir aider comme elle peut sa fille.
Et donc elle dit quoi ce jour-là devant les journalistes ?
Elle va demander plusieurs choses, mais notamment cette petite contribution qu'elle peut faire en fait pour aider les enquêteurs, c'est-à-dire de demander à des gens, des témoins, qui auraient pu voir quelque chose, qui auraient omis de le dire, qui n'oseraient pas, qui ne veulent pas avoir d'ennuis, de surtout contacter les enquêteurs et de leur en faire part parce que tout peut changer.
Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard pour bien faire. Alors vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont des choses à dire, à témoigner, ou des choses peut-être qu'ils ne se souvenaient pas. Le moindre indice est bon à prendre, en fait.
Et elle a raison, d'ailleurs. On sait que dans toutes les enquêtes criminelles, il y a toujours des témoins qui ne parlent pas, qui ont oublié de signaler certaines choses et qui s'en souviendraient.
Alors, on va voir pourquoi la mère de Lina a choisi de lancer cet appel ce jour-là. Pour bien comprendre, on a choisi de commencer ce podcast au début du mois de septembre. D'abord, Louise Colcombé, décrivez-nous les lieux, la commune de Plaine, près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, où vivent Fanny, qui est infirmière, et sa fille unique, Lina.
Plaine, c'est une commune constituée de plusieurs hameaux, dont fait partie Champenay, là où Fanny et sa fille Lina vivent. C'est vraiment très enclavé, donc on appelle ça la vallée de la Bruche, qui est la rivière qui passe. Mais voilà, on n'a que des petites départementales qui serpentent. C'est vraiment très peu habité. Et donc la maison de Fanny et Lina est vraiment au bord de la forêt, mais c'est la nature. Il y a des champs avec un petit pont et des chevaux. Voilà, on est vraiment en pleine nature.
On est donc au début du mois de septembre 2023. Présentez-nous Lina, qui est âgée de 15 ans.
Lina vient de fêter ses 15 ans en août. Elle est en CAP, aide à la personne, section vente. Elle est décrite par tous comme vraiment une bonne copine et une fille très avenante, sans se mettre en avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on aime bien, qui est toujours joyeuse, qui a le sourire. C'est vrai que des vidéos, on en a vu beaucoup de Lina, qui ont été postées par ses copines, où elle rigole. Voilà, c'est des trucs d'ado. Elle chante, elle se maquille, on met des filtres. Tous les enfants que j'ai pu voir ou les ados que j'ai pu rencontrer m'ont décrit quelqu'un de solaire.
Et elle est passionnée d'équitation. Un ami de la famille, un retraité, vous raconte le jour où il l'a vue tomber de cheval pendant une épreuve d'équitation.
Alors c'est l'équitation, c'est une passion qui se transmet depuis plusieurs générations. La maman de Lina, Fanny, elle-même est passionnée, ses parents l'étaient, elle a des chevaux. Lina a ce virus aussi et voilà, parmi les anecdotes qu'il me racontait, il l'avait pas mal entraîné, ce monsieur, il me racontait qu'une fois il avait eu une peur bleue parce qu'elle était toute petite et qu'elle avait été éjectée pendant une épreuve au sol en se disant « Mon Dieu, est-ce qu'elle s'est pas fait mal ?» Et finalement elle se relève toute sourire en rigolant et elle remonte sur le cheval comme si de rien n'était. Voilà, il avait gardé cette anecdote en tête qui montre un peu le caractère de Lina, toujours très joyeuse.
Lina a un petit ami prénommé Tao qui a 19 ans et le samedi 23 septembre, en fin de matinée, elle doit aller le retrouver à Strasbourg.
Elle veut prendre un train, c'est à peu près le seul moyen d'aller à Strasbourg. De toute façon, elle doit aller à Saint-Blaise-la-Roche, donc cette petite commune juste à côté de Plaine. Et elle doit retrouver Tao. Ils ont convenu de manger ensemble et de faire les courses et de rentrer plus tard en voiture parce que Tao a 19 ans et il est motorisé. Donc elle se prépare le matin, elle se fait jolie. Sa mère raconte qu'elle la voit dans la salle de bain et qu'elle lui dit « Oh là là, je suis en retard ». Elle est toute contente en fait, un peu excitée d'aller retrouver Tao qu'elle connaît depuis peu. Donc c'est le début, elle a tout feu tout flamme. Et Lina donc sort de chez elle, il est environ 11h15. Elle marche sur cette grande route, la RD350, bordée de pins, il n'y a pas d'habitation. Elle est en pleine nature. Tao va se rendre compte parce qu'il s'envoie beaucoup de messages, des messages instantanés par des applications, qu'à un moment, elle ne répond plus. Et il commence à s'inquiéter et en fait, il ne va jamais la voir arriver à la gare de Strasbourg.
Quel est le dernier message qu'il a reçu d'elle ?
Il est environ 11h20, un petit message vidéo en fait, elle se filme façon selfie, elle est en train de marcher. Elle lui montre sa tenue, elle lui dit qu'elle est contente d'arriver. Là, elle est vêtue d'une longue robe grise qui arrive jusqu'aux chevilles, de baskets montantes de marque Converse et d'une doudoune blanche.
Tao et la mère de Lina comprennent tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal.
Le train doit arriver à 12h, hein, 12h03 pour être précis, en gare de Strasbourg. Et dès 11h20, il se dit que quelque chose ne va pas parce qu'elle ne lit plus ses messages, il n'en reçoit plus, c'est un peu silence radio. Il va quand même attendre que Lina arrive à la gare. Le train doit arriver à 12h03 en gare de Strasbourg. Elle n'en descend pas, il fait le tour de la gare, il se rend compte qu'elle n'est pas là, il avertit immédiatement Fanny Groll, la maman de Lina.
Les environs sont donc fouillés. Le mardi 26 septembre, en plus des dizaines de gendarmes, il y a aussi près de 400 volontaires. Mais ces battues ne donnent rien, aucune trace de l'adolescente. En revanche, Louise Colcombé, plusieurs témoins disent l'avoir vue sur la départementale.
En fait, le dernier signe de vie qu'on a de Lina, ce sont la vidéo qu'elle a envoyée à Tao et ses témoins visuels qui la voient marcher sur cette route. Et il y a un témoin qui est particulièrement précis, c'est l'ancien maire de Plaine, Jean-Marc Chipon, qui lui, en fait, a la particularité d'être passé deux fois sur cette route, c'est-à-dire à l'aller, il la croise, il la voit d'ailleurs en train de faire une sorte de selfie, sans doute la vidéo qu'elle envoie à Tao, puisque les heures correspondent. Et lui, il repart chez lui parce qu'il bricole, il a oublié un outil important. Il fait vraiment un aller-retour, il revient et au retour, il ne la voit pas. Et immédiatement, il se dit, c'est pas possible, elle marche vraiment très vite parce que j'aurais dû la recroiser. Elle n'a pas pu encore dévier de cette route.
Et cet homme, l'ancien maire de la commune, va pouvoir donner un témoignage vraiment précis aux enquêteurs.
Oui, parce qu'il a la particularité de posséder des caméras de vidéosurveillance qui sont postées sur sa maison. Et donc, il va pouvoir dire aux gendarmes, moi, je suis repassé chez moi chercher l'outil à telle heure. Il est à ce moment-là 11h22 et 48 secondes. Et quand il en repart, il est 11h23 et 38 secondes. En gros, il est resté moins d'une minute. Il est resté 50 secondes chez lui. Il faut compter 2 à 3 minutes pour rejoindre la route. Donc c'est assez simple de se dire que Lina s'est évaporée en l'espace de 5 minutes, environ entre 11h20 et 11h26.
Et 11h22, c'est l'heure à laquelle son téléphone portable est coupé.
Effectivement, le timing, il colle d'autant plus qu'on a cet autre élément très inquiétant. C'est que le téléphone, qui est vraiment l'instrument dont voilà, Lina se sert comme tous les ados en permanence, brutalement, il cesse d'émettre à 11h22. Il n'y a plus de traces de Lina à ce moment-là. On ne peut plus la géolocaliser. On ne sait plus où elle est, ce qu'elle fait. Tout ça est très inquiétant parce que ça se passe vraiment dans une fraction de seconde.
Louise Colcombé, dès les premiers jours de l'enquête, une autre adolescente tient à dire aux gendarmes que le comportement étrange d'un homme à bord d'une voiture lui a fait peur récemment.
Cette jeune fille raconte le lundi, en fin de journée, elle a vu un homme la klaxonner, passer devant elle, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce qu'il faut se remettre dans ce contexte de vraiment de petits villages ruraux où tout le monde se connaît, connaît les marques de voitures, etc. Et donc, 3 jours plus tard, toujours dans le village de Plaine, elle descend pour aller chercher son bus scolaire. Et là, elle a un homme, même voiture, qui la suit. Elle a l'impression qu'il la suit, elle est seule. Il n'y a pas Pam qui vit autour d'elle, il fait nuit. Elle arrive jusqu'à l'endroit où elle doit prendre le bus. Et cet homme, en fait, va esquisser un mouvement comme s'il sortait de sa voiture pour essayer de l'attraper. Elle court tout en appelant son père, paniqué au téléphone, qui lui dit de rentrer dans une maison, il n'y en a pas, etc. Finalement, elle rejoint l'arrêt de bus. Et là, elle voit cet homme qui est garé, qui n'est pas parti et qui la regarde depuis sa voiture un peu au loin. Elle va donner un modèle, elle va parler de Xantia grise. Et heureusement pour elle, le bus arrive et elle monte dedans. Et voilà. Ça, c'est le jeudi matin. Lina disparaît le samedi. Donc, évidemment que ce témoignage va être pris très au sérieux et être analysé pour voir si on n'a pas affaire à un prédateur sexuel.
Cette adolescente, elle a 13 ans. C'est une amie de Lina et elle lui ressemble.
Oui, son père, en fait, qui était là quand je l'ai rencontré aussi, me disait ce qui me trouble, c'est qu'en fait, ma fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à Lina. Et c'est vrai, de dos, on peut totalement les confondre. Et donc, ce que lui s'est dit, c'est est-ce que ma fille était visée, ou inversement, est-ce que Lina était visée et est-ce que l'une n'a pas été prise pour l'autre ?
Les propriétaires de Xantia Grise des environs reçoivent la visite des gendarmes, ça ne donne rien. Louise, un autre habitant, dit avoir vu Lina à ce moment-là à bord d'une voiture et il parle d'une Renault, une Clio.
Un autre témoin, Robert, qui vit aussi à Plaine sur le hameau de Champenaise, celui où vit Lina, lui dit l'avoir vue un peu plus tard, pas loin de midi. Elle est à bord d'une voiture passager, une Clio bleu sombre, qui part pas du tout vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche, mais dans la direction opposée, plutôt vers Strasbourg. Un autre élément d'enquête, dont on ignore la nature, mais on croit savoir que c'est des éléments de vidéosurveillance, permettent de penser que cette voiture a été vue dans le créneau horaire fatidique. Donc en fait, tous les propriétaires, ou presque, de Clio bleu du coin, vont être ou perquisitionnés, interrogés, leur voiture examinée, parfois par la police scientifique, mais il y en aura d'autres au fil des mois, comme en témoignent les habitants.
Toutes ces vérifications ne donnent rien. En tout cas, Lina a disparu en l'espace de quelques minutes. Clairement, la piste des enquêteurs, c'est qu'elle a été enlevée. Une fugue est exclue.
La fugue ne tient pas parce qu'elle aurait donné signe de vie. Et puis surtout, ça se passe en l'espace de quelques minutes, à un endroit qui est quand même relativement passant. La seule question qui reste, c'est de savoir si elle est montée de gré ou de force dans une voiture. Est-ce qu'on l'a forcée? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît qui aurait pu lui proposer de la rapprocher de la gare? Ça, c'est vraiment la question, mais c'est évident aujourd'hui qu'on est sur une piste de l'enlèvement.
Louise Colcombé, le jeudi 28 septembre, vous rencontrez pour la première fois la mère de Lina avec d'autres journalistes. Dans cette situation dramatique, elle est comment avec vous?
Il y a de nombreux journalistes, on est en pleine campagne, on est tous un peu à passer ou à carrément pour certains faire le pied de grue devant sa maison. Elle choisit de s'exprimer pour parler de sa fille, parce que ça lui fait du bien, je pense.
Je me bats, je lâcherai rien, et ça c'est une certitude, jusqu'au bout.
Et aussi pour demander déjà à ce moment-là de faire taire certaines rumeurs malveillantes, en tout cas pour appeler la population à soit apporter un témoignage utile, ou se taire, en tout cas ne pas se perdre en conjectures qui peuvent polluer l'enquête, faire perdre du temps précieux aux gendarmes. Et donc elle demande à travers les journalistes de se concentrer, de respecter aussi un peu sa douleur à elle et celle de Tao.
Parce que Tao est attaqué sur les réseaux sociaux par certains internautes ou encore par un youtubeur, alors que le jeune homme est mis hors de cause par les enquêteurs. Il y a d'abord la téléphonie qui le situe à Strasbourg ce matin-là, et aussi des images de vidéosurveillance qui attestent de sa présence sur place. Mais Louise Colcombé, concrètement, de quoi il est victime sur Internet ?
Tao, il fait figure de suspect idéal, entre guillemets, puisque c'est le petit ami. Et donc, on va spéculer, le moindre fait et geste sont scrutés, analysés. Alors, il ne pleure pas devant les caméras, il est forcément coupable. Il a une voiture qui pourrait être bleue, donc en fait, elle est analysée sur les réseaux sociaux pour savoir si ça pourrait pas être la Clio dont on parle. Des choses malveillantes qui impliquent également la mère de Lina, où on met en doute leur relation. On entend tout et n'importe quoi, on lit tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que ça imprègne et que ça vient salir ces personnes qui, à ce moment-là, en fait, sont dans la détresse.
Louise Colcombé, le 17 janvier, Le Parisien rapporte que 8 jours après la disparition de Lina, son premier petit ami, donc pas Tao, mais un autre jeune homme, est mort brutalement.
Est-ce qu'il s'est tué dans un accident ou est-ce que ça pourrait être une forme d'aveu à travers un suicide. La question s'est posée. Mais on a regardé son emploi du temps, ce qu'il a pu faire, ses liens avec Lina, etc. Ça ne donne rien et il s'avère que malheureusement ce garçon s'est bien tué en voiture de manière totalement accidentelle.
Louise Colcombé, le vendredi 2 février, vous rencontrez une nouvelle fois la mère de Lina qui organise une conférence de presse.
Oui, il faut comprendre que le 2 février, on est à plus de 4 mois de la disparition de Lina. Ça fait 4 mois que Fanny Groll ne sait rien, ni de ce qu'est devenu sa fille, ni même de où en est l'enquête. Pour elle, elle le dit très bien, c'est vraiment une torture. Elle passe ses nuits, ses jours à échafauder des hypothèses, à penser à ses propres pistes, ses propres ressentis. Elle connaît mieux que personne la vie de sa fille. Voilà, elle aimerait au moins connaître les pistes qui sont fermées et le savoir autrement que par la presse, en fait. Parce que c'est finalement, paradoxalement, par les journaux qu'elle apprend des choses. Elle voudrait que les juges d'instruction lui donnent accès au dossier pour au moins savoir les pistes qui ont été explorées et les personnes qui ont été mises hors de cause. Et voir tout simplement que ça avance, peut-être réfléchir elle-même, apporter des éléments. En tout cas, elle a besoin d'être dans l'enquête et d'être informée.
À ce moment-là, l'avocat de la mère de Lina vous apprend que l'adolescente avait porté plainte en juin 2022 pour un viol en réunion quand elle avait 13 ans et demi. Qu'est-ce qu'il s'était passé selon elle ?
C'est un après-midi, elle est avec une autre amie et elles vont se rendre chez des garçons plus âgés qui sont majeurs, qui ont 18 et 19 ans. Et en fait, ces garçons vont leur faire consommer de l'alcool. Lina a 13 ans, 8 mois à ce moment-là, donc elle est très jeune. Et elle va avoir une relation sexuelle avec ces garçons, non consentie. Mais sur le moment, en fait, elle n'en parle pas à sa mère, puisque voilà, très classiquement, elle va se sentir honteuse, fautive, etc. Et puis elle va subir une vague de cyberharcèlement parce qu'en fait ces garçons vont répandre sur elle des pires choses en disant qu'elle était évidemment d'accord et que c'est une fille facile, pour le résumer. Pour elle c'est trop, elle va s'en ouvrir à sa maman, elle va lui expliquer en fait ce qui s'est passé et donc immédiatement elles vont déposer plainte.
Qu'est-ce que cette plainte avait donné ?
En fait, la mère de Lina va apprendre dans la presse que cette plainte a été classée sans suite. Ce qui est extrêmement violent parce qu'elle était persuadée, elle, qu'elle allait poursuivre son cours. Et on lui avait même promis d'organiser une confrontation entre Lina et ses agresseurs présumés. Ce qui n'a pas eu lieu et pour cause ensuite Lina a disparu, mais elle ignorait totalement qu'on avait mis sa plainte au fond de la corbeille. Parce que, viol ou pas, de toute façon, une relation sexuelle avec une mineure de 13 ans et 8 mois est interdite. Et donc c'est incompréhensible, elle demande à ce que l'enquête soit rouverte.
Au mois de mars, l'enquête est toujours au point mort. Louise Colcombé, le vendredi 22 mars, la mère de Lina lance donc un nouvel appel à témoins. C'est ce que l'on disait au début de cet épisode de Code Source. Elle évoque aussi un élément troublant. On lui a volé deux fois sa moto.
Elle avait une moto qui lui a été volée deux fois, mais à l'intérieur du garage familial. C'est ça qui est troublant. Une première fois en décembre 2022. Et la deuxième fois, c'est encore plus troublant parce qu'il y a cette réédition, c'est à nouveau dans le garage. Et ça se passe pendant leurs vacances d'été, au mois d'août. Donc il fallait savoir qu'elle serait absente. Et on est 6 semaines à peine avant la disparition de Lina. Donc sa maman ne peut que se demander s'il y a un lien. Elle explique d'ailleurs que quand elle a déposé plainte auprès des gendarmes pour la seconde fois, elle a dit « c'est pas possible, quelqu'un lui en veut ». Elle est ciblée puisque deux fois la même moto, c'est vraiment... Il y a quelque chose d'étrange.
Pendant cette conférence de presse du vendredi 22 mars, qui intervient donc à la veille des 6 mois de la disparition de Lina, sa mère, Fanny Groll, explique qu'elle a créé une association baptisée « Les étoiles de Lina ». Quelle est son idée ?
Elle a besoin, elle souhaite en fait se réunir en association pour fédérer toutes les personnes qui l'ont aidée et qui veulent encore l'aider à soit à chercher Lina, soit à créer également des moments de convivialité. C'est pourquoi le samedi 20 avril, il y aura un concert à Plaine d'un groupe de rock qui s'est proposé de jouer pour cet événement qui devrait permettre, en fait, avec les cotisations, de financer des allers-retours sur Strasbourg, des affichettes si on a besoin d'en imprimer pour rechercher Lina, ou aussi tout simplement pouvoir payer les frais d'avocat de la maman de Lina. C'est quelque chose dont on parle rarement, mais elle a eu l'honnêteté de le dire. Voilà, elle est infirmière, elle ne roule pas sur l'or. Tout ça coûte aussi de l'argent, malheureusement.
Le lundi 25 mars, un lac est encore fouillé. Ces nouvelles recherches n'apportent aucun indice. Le lendemain, le mardi 26, 3 personnes sont placées en garde à vue. Mais ces 3 auditions ne donneront rien. Les 3 personnes sont laissées libres. Louise Colcombé, Fanny Groll, la mère de Lina, elle vit un cauchemar absolu aujourd'hui.
Ça fait vraiment 6 mois qu'elle ne sait rien. On se demande presque quand on la voit comment elle tient debout. À cette douleur-là, il faut aussi ajouter cette violence extrême des réseaux sociaux, des choses qui salissent elle-même, Tao, et aussi Lina, puisqu'on apprend que le cyberharcèlement dont elle a été la victime, ça continue, parce qu'elle est salie, et c'est vrai qu'on l'entend. Quand on va dans la vallée de la Bruche, on entend « oui, Lina ceci, Lina cela, elle avait des petits copains qui étaient majeurs ». Avec ce sous-entendu odieux, finalement, elle l'a un peu cherché. Voilà, c'est la faute de la victime. Et ça, c'est insupportable pour cette maman. Elle ne sait pas où est l'enquête. Elle ne sait pas si sa fille est vivante. Et en plus de ça, sa mémoire est déjà salie. Et ça, c'est vraiment la double peine pour elle.
Merci à Louise Colcombé. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi, présentée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à nous mettre une étoile ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous aider à remonter dans les recommandations.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.